Ciao, c'est Vincenzo Genovese depuis Bruxelles Estival.
Et moi, c'est Hermine Dancel, je suis également journaliste à Bruxelles.
Je vous propose de revenir aujourd'hui sur la gestion de la migration dans l'Union européenne, un sujet que j'ai déjà abordé dans ce podcast des Voix de Bruxelles. Nous avions vu que l'Union européenne a fait face à une augmentation sur son territoire d'arrivées irrégulières et des demandes d'asile. En 2022, 972 160 personnes ont franchi ses frontières, soit les chiffres les plus élevés depuis 2016, selon les statistiques européennes.
Cependant, le régime d'asile commun de l'UE souffre de défauts de conception et d'une mise en œuvre incomplète. C'est pourquoi un consensus s'est dégagé parmi les pays de l'Union européenne sur la nécessité d'introduire de nouvelles règles pour mieux gérer les flux collectivement. Le 8 juin, à Luxembourg, après une réunion longue et tendue, les gouvernements du Conseil de l'UE sont parvenus à un accord sur deux textes de compromis, le règlement relatif à la procédure d'asile et le règlement relatif à la gestion de l'asile et des migrations. Deux textes législatifs clés du nouveau pacte sur l'asile et la migration présenté par la Commission européenne en septembre 2020.
Le maître mot de ces accords est de trouver un juste équilibre entre responsabilité et solidarité entre les États membres dans la gestion de l'afflux des migrants irréguliers en Europe. Concrètement, cela signifie d'une part que les pays de l'UE situés en première ligne des arrivées doivent mieux contrôler leurs frontières, enregistrer les migrants irréguliers et empêcher les mouvements secondaires, c'est-à-dire à l'intérieur de l'UE, vers d'autres pays. En retour, ils recevront l'aide de ces autres pays de l'UE dans le but de partager plus équitablement les fardeaux de l'accueil des demandeurs d'asile.
Sous la médiation de la présidence suédoise du Conseil, un nombre étonnamment élevé de pays ont approuvé l'approche générale commune au sein du Conseil. Bien qu'il s'agisse d'une avancée majeure, des dents ont grincé, et grincent encore, dans certaines capitales européennes, en particulier en Hongrie et en Pologne. Budapest et Varsovie rejettent en effet l'accord et critiquent l'utilisation du vote à la majorité qualifiée pour les décisions relatives au pacte migratoire. Lors du sommet des dirigeants européens, fin juin, après une discussion qui s'est prolongée tard dans la nuit, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, et son homologue hongrois, Viktor Orban, ont bloqué les conclusions du sommet sur le pacte migratoire, forçant le retrait du paragraphe de la déclaration finale.
Les deux règlements approuvés par le Conseil sont maintenant discutés au niveau interinstitutionnel entre le Parlement européen et la présidence du Conseil. Mais ces négociations ne se dérouleront pas sans heurts, les deux institutions étant en désaccord sur un certain nombre de dispositions clés que je vais analyser ici avec vous.
Dans le nouvel accord, une disposition qui attire l'attention est probablement la solidarité obligatoire que les pays de l'Union doivent assurer en relocalisant sur leur territoire les demandeurs d'asile provenant d'autres États membres. Il s'agit d'un changement radical, car dans le système mis en œuvre actuellement, chaque État membre est responsable des demandeurs d'asile qui ont atteint son territoire. En vertu du nouveau cadre, les pays de l'UE doivent relocaliser des personnes ou offrir de l'argent pour compenser ces relocalisations, qui ne seront pas obligatoires en soi et qui devront atteindre le nombre total de 30 000 par an dans l'ensemble de l'Union.
Afin de mieux comprendre les changements proposés dans ces textes longs et complexes, j'ai d'abord pédalé dans la circulation bruxelloise pour rejoindre le European Policy Center, où j'ai rencontré l'analyste politique Helena Hahn, experte en la matière. Helena Hahn, 30 000 relocalisations par an sont-elles suffisantes? Étant donné que l'année dernière, 962 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'UE et que 330 000 passages irréguliers ont été détectés.
So the number that is currently included in the proposal.
Alors, le chiffre actuellement inclus dans la proposition pourrait donc être compris comme une concession aux États membres du Sud qui craignent de ne pas pouvoir bénéficier d'une solidarité suffisante en échange de la responsabilité supplémentaire qu'ils assument, entre autres, par le biais des procédures aux frontières. Ainsi, plutôt que d'avoir un plafond, ce chiffre est maintenant considéré comme un seuil, à partir duquel les États membres peuvent faire des promesses de relocalisation volontaire allant au-delà des 30 000. Ce chiffre aurait tendance à augmenter au fil des années.
La part de chaque pays dans ce nombre sera calculée en fonction de certains paramètres tels que la population et les PIB, a ajouté l'expert. Le nouveau règlement sur l'asile et la gestion des migrations proposé par Bruxelles, sur lequel la plupart des États membres se sont mis d'accord, introduira un mécanisme appelé compensation des responsabilités. Actuellement, un État membre émet une notification de reprise en charge lorsqu'il détecte sur son territoire une personne enregistrée dans un autre pays en tant que pays de première arrivée. Le mécanisme révisé prévoira que si un pays de première ligne ne reçoit pas une solidarité suffisante de la part des autres pays de l'UE pour relocaliser les demandeurs d'asile, il ne sera pas obligé de reprendre les migrants dont les demandes d'accueil auraient été rejetées dans d'autres pays européens. Comment ce mécanisme fonctionnera-t-il, Helena Hahn?
So using the example of Italy and Germany,
ainsi, si l'on prend l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne, l'Allemagne peut décider de ne pas émettre de notification de reprise en charge parce que, par exemple, des personnes ont été enregistrées en Italie et que la responsabilité incomberait donc à l'Italie. Le pays en question peut accepter de ne pas le faire, mais en échange, il peut garder les demandeurs d'asile qui sont déjà sur le territoire, sans relocaliser d'autres personnes. Cela signifie que les personnes qui relèvent de Dublin et celles qui sont éligibles à la relocalisation ne vont pas changer de pays hôte, mais rester là où elles se trouvent déjà.
En outre, une disposition est prévue pour les États membres qui ne souhaitent pas que les migrants soient relocalisés sur leur territoire. Ils pourraient choisir de financer des structures d'accueil ou de renforcement des capacités dans d'autres États membres, voire d'accorder une contribution financière de 20 000 euros pour chaque migrant qu'ils refusent d'accueillir, qui serait versée à un fonds commun géré par la Commission de l'UE.
Sans surprise, la Pologne et la Hongrie sont particulièrement irritées par cette disposition. Helena Hahn, à quoi sont destinés ces 20 000 euros par migrant?
Ces 20 000 euros sont donc destinés à couvrir essentiellement les coûts d'une relocalisation. Si j'ai bien compris, ce nouveau fonds géré par l'UE serait utilisé pour investir, de manière générale, dans des mesures qui réduisent les causes profondes de la migration irrégulière, potentiellement la gestion des frontières. Il s'agit donc de choses que nous avons tendance à considérer comme relevant de ce que l'on appelle la dimension externe de la migration.
Cette dimension externe de la migration couvre l'ensemble des politiques et des partenariats conclus avec des pays tiers pour gérer les migrations en dehors de l'UE. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les règlements relatifs à la gestion de l'asile et de la migration par rapport au règlement de Dublin actuellement mis en œuvre dans l'UE. La procédure est similaire. Les pays en première ligne, celui d'entrée dans l'UE, restera responsable de l'évaluation des demandes d'asile des migrants irréguliers.
Toutefois, les nouvelles règles prévoient davantage d'exceptions. Par exemple, un ressortissant étranger peut choisir de demander l'asile dans un pays qui n'est pas le premier pays d'arrivée, si il a des liens familiaux avec une personne se trouvant dans un autre État membre. La portée et les détails de ces exceptions feront très probablement l'objet d'âpres négociations entre le Conseil et le Parlement.
Il est également possible que la longueur de la période des responsabilités du pays d'arrivée après un franchissement irrégulier des frontières soit modifiée. Actuellement, elle est de 12 mois, durée que soutient le Parlement européen. Mais au Conseil, les États se sont mis d'accord pour l'étendre à 2 ans, afin de réduire les mouvements secondaires des migrants à partir des États membres situés en première ligne. Est-ce un autre point d'achoppement, Helena Hahn?
Il s'agira donc probablement d'un point de discorde dans les négociations avec le Parlement. Car on parle soit d'un an, soit de 2 ans. Il reste donc à savoir s'ils se mettront d'accord sur une période commune.
Mais c'est sans doute le règlement relatif à la procédure d'asile, le texte législatif approuvé par les ministres qui constitue le dossier le plus complexe des deux textes sur lesquels les deux institutions doivent se mettre d'accord. En effet, il comprend une nouvelle procédure aux frontières, soit une procédure accélérée, un mécanisme pour évaluer les demandes d'asile aux frontières dans un délai maximum de 12 semaines. Cette procédure est obligatoire pour certaines catégories de demandeurs. Ceux qui sont considérés comme un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ceux qui ont induit les autorités en erreur, ou les ressortissants de pays tiers pour lesquels la proportion de décisions accordant une protection internationale est inférieure à 20%. L'objectif est de faire la distinction entre les personnes considérées comme ayant un réel besoin de protection et qui pourraient bénéficier d'une autre forme de statut juridique ou qui ne sont pas du tout éligibles au séjour, explique Elena Hahn.
Pourriez-vous clarifier comment fonctionneraient ces procédures frontalières, Madame Hahn?
It's important to remember that border procedures...
Il est important de se rappeler que les procédures frontalières ne sont pas aussi intenses en termes de ressources administratives qu'elles ne le sont pour les procédures d'asile ordinaires. On pourrait les décrire comme une sorte de procédure d'asile allégée. L'idée étant que les États membres soient en mesure de les mener à bien dans des délais plus courts parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller aussi en profondeur. Le risque, bien sûr, est que les garanties procédurales soient insuffisantes, qu'il y ait une limite au type de recours juridique dont les personnes disposent, et que, plutôt que de considérer les choses du point de vue des États membres, ceux-ci aient encore du mal à achever les procédures frontalières dans ce laps de temps. C'est plutôt du point de vue de la précision que nous pourrions voir de gros problèmes. Car les évaluations rapides, bien sûr, ne sont pas nécessairement précises pour déterminer les besoins de protection internationale des personnes.
Cette mesure s'ajoutera à un contrôle d'identification préalable à l'entrée, une disposition contenue dans son autre règlement et qui obligerait à identifier dans un délai de 100 jours, les migrants irréguliers à proximité des frontières extérieures de l'UE feront de décider si une personne sera orientée vers la procédure frontalière de retour ou vers la procédure d'asile. Les contrôles préalables à l'entrée et la procédure aux frontières entraînent une détention de facto, selon Elena Bizzi, experte en migration et asile du Euromed Rights, un réseau d'associations de défense des droits de l'homme basé à Bruxelles. Je l'ai rencontrée dans son bureau du centre-ville. Elena Bizzi, quel sera l'impact de ces nouvelles procédures sur les droits des migrants?
Il est clair qu'il contiendra une détention de facto. Donc des procédures plus rapides dans lesquelles la demande d'asile n'est probablement pas bien établie. Je veux dire, avec toutes les garanties et les critères de respect des droits fondamentaux, des procédures régulières, des procédures rapides, visant à renvoyer ou à accélérer le plus possible le rapatriement des demandeurs d'asile.
Madame Bizzi souligne également les risques de détention pour les enfants de moins de 12 ans, qui, s'ils sont soumis à la procédure frontalière, pourraient être retenus avec leurs parents. Sur ce point, le Parlement européen devrait faire pression pour qu'un mécanisme de contrôle soit mis en place afin de vérifier le respect des droits de l'homme dans le cadre des deux procédures. Le législateur souhaite que l'utilisation de la procédure frontalière pour les personnes originaires de pays où le taux de protection est inférieur ou égal à 20% ne soit pas obligatoire.
Une autre pierre d'achoppement concernant les règlements relatifs à la procédure d'asile, est-ce que les États membres de l'UE peuvent décider à leur guise des critères permettant de considérer un pays tiers comme sûr et donc apte à accueillir les migrants rejetés par l'UE? Elena Bizzi, comment sera défini un pays tiers sûr?
L'État membre doit simplement démontrer l'existence d'un lien entre le demandeur d'asile et le pays tiers sûr. Il peut s'agir d'un lien familial dans le pays tiers en question, ou bien la personne peut y avoir séjourné ou vécu dans le passé. Ces dispositions permettront donc aux États membres de procéder à des rapatriements au seul motif que la personne a transité par ce pays tiers. Ainsi, par exemple, l'Italie pourra renvoyer en Tunisie des demandeurs d'asile non tunisiens. Et nous voyons ici une volonté accrue de l'UE, de l'Italie et aussi de la France récemment cette semaine, de renforcer la coopération avec la Tunisie en matière de gestion des frontières et des rapatriements.
En effet, le renforcement de la coopération avec les pays tiers semble être un pilier clé de la nouvelle politique migratoire de l'UE, afin d'empêcher les migrants de partir et d'atteindre les côtes européennes. Après un accord contesté avec la Turquie en 2016 et les années de soutien financier aux autorités libyennes, l'Union promet aujourd'hui à la Tunisie 100 millions d'euros pour la gestion des frontières, les opérations de recherche et de sauvetage en mer et la lutte contre les passeurs et les retours. Et les conclusions du dernier Conseil européen soulignent l'importance de renforcer et de développer des initiatives similaires de partenariat entre l'UE et ses partenaires régionaux, en précisant que les pays de l'UE cherchent des moyens d'améliorer les accords migratoires. Le pacte comporte encore d'autres textes législatifs, notamment un règlement sur les situations de crise et de force majeure, lorsqu'un pays est confronté à un afflux massif d'arrivées de ressortissants de pays tiers. Néanmoins, il semble que pour l'instant, l'approche générale adoptée par les pays de l'UE est dominée par la dimension extérieure. Ce qui manque vraiment ici, ce sont les initiatives visant à sauver les personnes qui traversent la Méditerranée en direction de l'Europe, souligne Elena Bizzi.
Y a-t-il quelque chose dans le nouveau cadre pour sauver des vies en mer, hein, Madame Bizzi?
Nous constatons une seule mention dans ce règlement sur l'asile et la gestion des migrations, simplement pour renforcer la capacité des pays voisins dans les opérations de recherche et de sauvetage. Ce point est également mentionné dans le récent plan d'action pour la Méditerranée centrale, publié par la Commission européenne en novembre de l'année dernière. Il est donc question d'accroître les capacités de recherche et de sauvetage des pays tiers, tels que la Tunisie, la Libye et l'Égypte, ce qui est très préoccupant en raison des nombreuses violations des droits de l'homme dans ces pays, ainsi que des violations des droits de l'homme résultant du renforcement des capacités des gardes-côtes de ces pays.
Lorsque des naufrages tragiques se produisent, comme celui qui a eu lieu près de la ville grecque de Pylos en juin dernier, qui a fait plus de 600 victimes, les dirigeants nationaux et responsables européens s'empressent de présenter leurs plus sincères condoléances. Mais un mécanisme de recherche et de sauvetage adéquat, transparent et plus efficace à l'échelle de l'UE serait préférable, à tout regret. C'est tout pour aujourd'hui, mais je reviendrai bientôt avec d'autres nouvelles de Bruxelles. Et bien sûr aussi dès que la fumée blanche sortira du bâtiment du Conseil sur d'autres dossiers d'immigration. Restez à l'écoute!